France Inter, le 7-9, intervenez.
Jean-Pierre Filiu, professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain. Vous publiez aux éditions La Découverte, généraux, gangsters, djihadistes, histoire de la contre-révolution arabe. Nous sommes avec Léa Salamé jusqu'à 9h et les auditeurs d'Inter. Bonjour Denis, bienvenue.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons Denis.
Voilà, alors je voudrais savoir pourquoi on ne parle jamais du Yémen, où l'Arabie Saoudite mène une guerre répugnante qui conduit à une des plus grandes catastrophes humanitaires, avec notamment la famine et des maladies comme le choléra qui se propagent.
Merci Denis pour cette question. Jean-Pierre Filiu.
Je parle beaucoup du Yémen dans mon livre. C'est justement un des tristes cas d'école. Il faut savoir qu'avant que l'Arabie mène ce conflit que vous avez tout à fait cruellement caractérisé, on a eu pendant une trentaine d'années un dictateur assoiffé de pouvoir, Ali Abdallah Saleh, qui avait réunifié le Yémen sous son autorité et qui a dû faire face, comme Ben Ali, comme Moubarak, à un soulèvement démocratique au printemps 2011, sauf que là, on avait eu une transition sous l'égide de l'ONU. Et là, tout le monde a dit, c'est merveilleux, vous voyez, les dictateurs, faut surtout pas leur faire peur, il faut être très gentil avec eux, leur promettre l'impunité, de garder tous leurs comptes en banque, et ils s'en iront gentiment. Bon, en fait, il est parti, puis il est revenu par la porte de la guerre civile, et c'est lui qui a déclenché cette guerre civile, qui a maintenant pris des proportions dantesques du fait de l'intervention, il y a 2 ans et demi, de l'Arabie Saoudite, qui ne fait aucun cas des différentes conventions internationales. Je rappelle que Saleh est mort le mois dernier, alors que dans un ultime retournement, il tendait à la main à l'Arabie Saoudite, qui était prête à l'accepter. Il a été assassiné par ses compagnons de complot.
Retour au standard. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour à vous, bonjour à tous. Monsieur Filiu, bonjour. On parle au Moyen-Orient d'une solution à 2 États dans le conflit israélo-palestinien. Or, je constate qu'il n'y a qu'un seul État. Donc, pensez-vous que le président Macron aurait le courage et la lucidité pour simplifier le problème et résoudre, le droit et la justice de reconnaître l'État palestinien dans les frontières de 67?
Merci Frédéric pour cette question. Jean-Pierre Filiu.
C'est une longue histoire française. Déjà en 1992, le président Mitterrand avait dit que le plan de partage de la Palestine en 1947 avait créé un État, l'État d'Israël, alors qu'il en prévoyait 2, et que cet autre État était, je cite Mitterrand, resté en rade, mais que la légitimité entre les 2 États était la même. On voit bien que les faits accomplis sur le terrain vont dans le sens de l'absence de solution, parce qu'il n'y a pas de solution à un État, il n'y aura que la guerre qui s'ajoutera à la guerre et à l'occupation et la colonisation. Il est probable qu'une reconnaissance volontariste de l'État palestinien permette, si ce n'est de sortir de l'impasse, au moins d'envoyer à Trump et consorts le message que ce statu quo est intolérable, qu'il ne peut que créer encore plus de conflits.
La décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël est, selon vous, une catastrophe ?
Elle nous change de monde, c'est-à-dire nous sommes dans un monde où les États-Unis n'ont plus aucune légitimité à parler de paix au Moyen-Orient. Donc soit il y a la guerre, ce qui veut dire des choses terribles pour l'Europe, soit l'Europe se prend en main et de manière volontariste, en prenant des risques, mais qui seront beaucoup moins élevés que la guerre qui se profile, elle va justement dans le sens de la solution à 2 États. Elle est le premier partenaire d'Israël, le premier bailleur de fonds des Palestiniens. Elle en a tout à fait les moyens.
Léa Salamé.
Jean-Pierre Filiu, dans votre livre, vous dites « Mon hypothèse, c'est que la renaissance arabe, les révolutions arabes ont échoué à cause de 2 idéologies, le wahhabisme en Arabie Saoudite et le kémalisme en Turquie ». Emmanuel Macron reçoit ce vendredi Recep Tayyip Erdogan à l'Élysée. L'Élysée affirme qu'ils vont parler des droits de l'homme, qu'ils aborderont la question des droits de l'homme. Quelle doit être la voix, la position de la France face à un président turc qui est de plus en plus radicalisé dans ses positions?
Jean-Pierre Filiu.
Donc effectivement, ça sera un entretien assez musclé. On peut espérer que des choses fortes seront dites, mais qu'en même temps, la Turquie sera traitée comme un partenaire, un allié au sein de l'Alliance Atlantique et un pays dont la vocation européenne n'est pas totalement abandonnée. On voit bien que à chaque fois qu'on a abandonné pour le coup la Turquie à ses démons, et les démons autoritaires d'Erdogan sont virulents, eh bien elle s'est tournée vers d'autres, vers la Russie, voire l'Iran. Je rappelle qu'il y a un an, c'est la Turquie qui a abandonné Alep. Ce n'est pas le régime Assad qui a vaincu la révolution dans le nord de la Syrie. C'est la Turquie qui lui a livré.
Mais ça veut dire quoi, une conversation musclée? Vous attendez quoi?
Ça veut dire déjà que tout doit pouvoir être mis sur la table, y compris les violations intolérables des droits de l'homme en Égypte, y compris les libertés qui sont bafouées, mais que la France doit aussi renouer avec la Turquie une relation qui permette de sortir de cette impasse, là encore, je l'espère, vers le haut. Je crois que, par exemple, France et Turquie ensemble pourraient renverser une tendance qui nous paraît trop fatale, irréversible aujourd'hui en Syrie.
Donc vous appelez Emmanuel Macron à jouer la carte turque, malgré les dérives autoritaires dont vous parlez. À jouer davantage la carte turque.
Je crois qu'il n'y a pas à jouer une carte. Le problème, c'est que trop souvent, on pose la diplomatie comme un jeu de exclusif. On peut fort bien jouer en même temps la carte iranienne, la carte turque, la carte russe et la carte syrienne.
En général, au Proche-Orient, et vous le savez mieux que moi, il faut choisir, malheureusement.
Pas forcément, surtout quand chacun des partenaires a des priorités différentes sur des dossiers différents. Je pense que sur la question de l'avenir de la Syrie, et avec ce que ça implique en termes de prévention du terrorisme et de flux des réfugiés, s'interdire le dialogue avec les Turcs est insensé. Et en même temps, c'est en ayant ce dialogue sans aucune concession que l'on pourra, à mon sens aussi, desserrer l'étau de plus en plus terrible qui pèse sur les intellectuels turcs, la presse turque.
Vous y croyez vraiment à ça?
J'y crois vraiment. Je pense qu'on ne peut pas les abandonner et que les Turcs, justement, et je reviens, si vous permettez, à ma distinction entre régime et État, on peut traiter avec les régimes sans identifier les peuples à ces États. Il est très important que la population turque ne soit pas laissée à elle-même face à ce régime.
Mais elle l'est de fait aujourd'hui. Peut la France, que peut l'Europe, que peuvent les autres? Enfin, ça s'appelle la réelle politique, les régimes autoritaires ou les dictatures. Enfin, sont des systèmes fermés sur lesquels il n'y a aucune prise.
Je ne crois pas en l'espèce qu'il n'y ait aucune prise sur la Turquie. Je rappelle que l'Europe a déversé des milliards d'euros sur la Turquie quand il s'agissait d'empêcher les vagues de réfugiés. J'ai toujours été partisan d'une coopération, mais qui soit conditionnelle avec la Turquie. Que l'argent soit donné, et il continue d'être donné à foison, mais avec des contreparties.
Et il faut... la contrepartie, c'était de gérer les réfugiés.
Oui, oui.
Donc l'Europe ne faisait pas de la philanthropie avec la Turquie, elle achetait un service.
Elle achetait un service, mais ce service, on l'a bien vu, n'a fait qu'encourager Erdogan dans ses tendances autoritaires. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un problème qui est un problème européen.
Que l'Europe ne peut plus gérer puisqu'elle a fermé la porte à la Turquie. On est d'accord ou pas que c'est circulaire et sans fin?
C'est pour cela qu'il faut faire de la politique et de la diplomatie et pas uniquement des chèques qu'on pose sur la table et qu'on retire.
Une Française, figure féminine de Daesh, qui est recrutée pour l'organisation terroriste, Émilie Koenig, a été arrêtée. On fait quoi des revenants, des revenantes, là en l'occurrence? Certaines demandent à la France que de revoir sa position et de ne pas les laisser où elles sont parties, mais de les faire revenir...
On voit que par rapport à ce défi d'une dimension inégalée, aucune réponse univoque ne peut suffire à épuiser le débat. Donc si on dit c'est juste ceci, juste cela, il faut adopter le cas par cas. Il faut traiter chaque dossier comme un dossier humain, un dossier de compatriotes, quels que soient les crimes qui ont été commis. On se rend compte qu'il y a eu une illusion qui en dit long sur l'état de nos institutions, que tous pourraient mourir là-bas et qu'éventuellement on pourrait même donner un coup de main pour qu'ils meurent tous là-bas. Ce n'est pas vrai. Dans l'histoire du djihadisme, il y a toujours des revenants. Il faut donc plutôt s'y préparer que le subir à reculons.
Et là, mais comment on s'y prépare, pardonnez-moi.
Alors déjà, on ne peut pas feindre l'innocence. Quand depuis des années, on a des centaines de personnes qui vont en Syrie, on savait qu'ils allaient revenir. Je répète, beaucoup ont entretenu l'illusion, qui est commune à beaucoup de bureaucraties de beaucoup de pays, qu'ils ne reviendraient jamais. La question était... est-ce qu'on devait toujours les regarder comme un risque, un péril ? On aurait pu, à un certain moment, en ouvrant les portes, en favorisant des repentis, mais des vrais repentis, à la fois obtenir, en termes de renseignements et en termes de contre-propagande, des ressources que nous nous sommes interdits. Maintenant, nous sommes dans la phase où, bientôt, cocorico, la victoire va être proclamée contre Daesh. Or, nous ne sommes que dans le creux de la vague. Aujourd'hui, Daesh est à peu près dans la position où était Al-Qaïda au début de la décennie, et on sait que de cet Al-Qaïda est sorti l'État islamique et autres monstres.
Donc vous pensez que Daesh est mort, mais que de nouveaux groupuscules vont émerger dans 2-3 ans
ou même Daesh sous un nouvel avatar. Donc plutôt que de penser, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on pense toujours en termes statiques, de stock et non pas dynamique en termes de flux. Nous sommes forts, nous sommes les plus forts. Nous sommes la République avec nos libertés. Nous ne nous abaissons pas au niveau des bourreaux. Et nous avons les moyens de gérer avec nos institutions, et je sais que c'est extrêmement délicat, c'est pour ça que je dis que c'est du cas par cas. On ne peut pas fixer une doctrine qu'on appliquera à tout le monde, à cette djihadiste qui, à l'évidence, a été une pionnière, non seulement dans la propagande, mais dans le recrutement, voire peut-être, je n'en sais rien personnellement, dans la commission d'actes terroristes, et en revanche, des femmes, des enfants qui, eux, ont été pris dans cette tourmente. Donc, il est évident que c'est un débat terrible, hein, mais des solutions à l'emporte-pièce, qui, vu la tendance publique, iront toujours vers le plus répressif, à mon avis, ne régleront pas le problème.
Allez, retour au standard. Bonjour Florence.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Merci beaucoup. Bonjour Monsieur Fillu. Voilà, moi je voudrais poser la question du peuple kurde. Ils ont souvent été laissés tout seuls en première ligne. On a vu les forces d'Erdogan, l'arme au pied, les regarder reconquérir certaines villes proches de la frontière. Va-t-on les laisser tomber ou va-t-on essayer d'influer auprès d'Erdogan pour que le peuple kurde ait une reconnaissance, même si peut-être dans un premier temps c'est pas l'indépendance, mais au moins une reconnaissance et surtout qu'on les protège parce que même les députés kurdes sont menacés.
Merci Florence pour cette question. Jean-Pierre Filieu.
Moi j'étais partisan il y a déjà quelques années, on parlait des fonds européens, qu'une partie de ces fonds soit affectée au processus de paix avec les Kurdes en Turquie même. Cette option n'est plus d'actualité, entre autres parce que la guérilla séparatiste de ce qu'on appelle le PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan, a repris les armes et a enterré, avec évidemment le soutien actif du gouvernement d'Erdogan, l'option politique. Mais faisons attention quand on dit peuple kurde, hein, la diversité kurde est profonde. Quand on a parlé d'un référendum au Kurdistan d'Irak il y a quelques mois, j'avais mis en garde contre une catastrophe annoncée. Et non seulement cette fuite en avant au profit d'un parti, un autre parti kurde, le Parti démocratique du Kurdistan, n'a pas permis d'avancer d'un iota vers l'indépendance, mais a fait perdre d'importants territoires aux Kurdes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Irak, la plupart des Kurdes qui sont en prison sont emprisonnés par des milices kurdes, dans des prisons kurdes, torturés en kurde, par d'autres Kurdes. Et donc, peut-être que l'autonomie, l'indépendance n'est pas l'horizon démocratique rêvé, décrit par certains.
Merci Jean-Pierre Filiu pour ce dialogue sur France Inter avec les auditeurs depuis 8h40. Je rappelle le titre de votre dernier livre aux éditions La Découverte, Généraux, gangsters et djihadistes, histoire de la contre-révolution arabe.